Philippiens 3, versets 10 à 4, verset 1. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés.
Il n'y a pas une seule personne ici présente dans cette salle qui ne soit sauvée. Il n'y a pas une seule personne ici présente dans cette salle qui ne soit sauvée. Alors cette affirmation peut vous choquer. Elle peut vous choquer parce que vous êtes peut-être un visiteur qui entre pour la première fois dans un lieu de culte chrétien et qui s'attendait à voir des gens qui se disent sauvé. Et cette affirmation peut également vous choquer parce que peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps, peut-être, et vous avez l'assurance d'être sauvé par Christ, libéré de la mort, du péché, accepté par Dieu en Jésus-Christ, ayant reçu le statut d'enfant de Dieu et possédant la vie éternelle. Et donc cette affirmation peut vous choquer. Mais si je peux dire cela, c'est parce que Paul dit lui-même cela dans le passage qu'on vient de lire. Je relis le verset 20, si vous ne l'aviez pas remarqué. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons un sauveur. Et si nous attendons un sauveur, c'est que nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose, même les croyants. Mais avant de voir cela plus en détail, on va prier, puis on va découvrir avec Paul tout le chemin qui reste à parcourir, le marathon que nous avons à faire avant de recevoir ce salut dont on parlera. Alors prions. Seigneur, si nous pouvons t'appeler Seigneur, notre Seigneur, c'est parce que tu nous as délivrés et rachetés, corps et âme, du péché et de toute la tyrannie du diable, de Satan. Tu nous as sauvés non pas avec de l'or et de l'argent, mais avec ton sang précieux, et ce, afin que nous t'appartenions alors. Merci Seigneur pour cela. Et nous t'en serons à jamais reconnaissants. Et nous voulons nous souvenir que, puisque tu nous rachètes avec ton sang précieux, tu mérites en retour qu'on se mette en marche, qu'on se mette à courir pour te suivre et pour vivre pour toi. Et qu'on se mette aussi à ton écoute. Alors c'est ce que nous voulons faire maintenant en méditant ta parole ensemble. Amen. Dans le passage qu'on a lu, Paul nous parle de deux choses. Il parle du chemin de la vie chrétienne et de la fin, du but de la vie chrétienne. Et pour ça, il déroule une métaphore filée tout au long de son discours que les Philippiens pouvaient visualiser parfaitement. Tout le monde avait la référence. Et cette métaphore, eh bien, c'est Jeux Olympiques, les JO. Et ici, Paul n'est pas intéressé par les histoires de dopage ou de coûts de construction des stades olympiques. Non, Paul fait un parallèle entre une épreuve des JO et la vie chrétienne. Verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul court vers un but pour remporter l'appel céleste. Il court comme dans une épreuve des JO. Et ce terme d'appel céleste, bah, ça fait référence à la cérémonie de remise de la couronne au vainqueur de l'épreuve à l'époque. Regardez encore verset 20. Il est question du droit de cité, de la citoyenneté. Et Paul fait référence ici à la citoyenneté romaine des Philippiens qui était indispensable pour participer aux Jeux Olympiques à l'époque. Et regardez encore verset 1 du chapitre 4. Il parle de couronne. « Vous qui êtes ma joie et ma couronne ». Cette couronne, c'est la couronne de laurier, qui est la médaille que les vainqueurs des JO recevaient à l'époque. Donc on voit que Paul, dans ce passage, il décrit la vie chrétienne comme une course. Une course avec une épreuve à réaliser et une ligne d'arrivée. Alors je vous propose qu'on commence par voir ce qu'il nous dit de la course, puis ce qu'il nous dit de cette ligne d'arrivée. Alors, je vais vous révéler un secret. Est-ce que vous savez ce dont doit parler un prédicateur pour captiver son auditoire? Et je vous préviens, je suis très nul pour appliquer ce principe. De foot! Très bien. Eh bien, Paul, en bon prédicateur, savait comment captiver son auditoire de l'époque. Il fallait parler des JO, équivalent à notre foot français. Et c'est ce que fait Paul ici. Il va se prendre lui-même pour un athlète des JO. Il nous dit qu'il court de toutes ses forces pour chercher à s'emparer du prix. Et on voit que ce prix, il dit, son but, c'est de faire tous ses efforts pour atteindre la perfection. Autrement dit, pour devenir conforme à Christ, verset 10. Autrement dit, pour connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. C'est comme si moi, je vous dis, hey « Eh les gars, je vais de match en match, samedi après samedi ou dimanche après dimanche, de but en but, je cours, je joue, je m'entraîne de toutes mes forces pour remporter le prix ultime, cette étoile supplémentaire sur le maillot. Je fais une chose, oubliant France-Suisse en 2021, oubliant France-Italie en 2006, oubliant même France-Brésil en 98, je cours vers le but, pour remporter cette étoile merveilleuse qui est de connaître Jésus-Christ. Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie tout ce qui est en arrière, son passé, que ce soit ses victoires ou ses échecs. Et il se porte sur ce qui est en avant, son but. Pourquoi est-ce qu'il oublie tout ce qui est en arrière? Eh bien, tout comme on a vu que notre passé peut être un frein pour notre justification la semaine dernière, eh bien, notre passé peut également être un obstacle, un frein dans notre sanctification, dans notre désir de ressembler à Christ toujours plus. Parce qu'on a tendance à être dirigé par notre passé. C'est vrai, c'est dur de couper avec son passé. Ça peut être dur soit parce que notre passé est rassurant, quand il s'est bien passé pour nous, soit parce qu'on ne veut pas reproduire les erreurs ou ce qu'on a vécu dans notre passé. Du coup, notre passé devient paralysant pour nous. Et c'est un peu vrai dans les deux cas pour Paul. Son passé, il le regrette très probablement profondément. Les visages des hommes et des femmes, des chrétiens qu'il a emprisonnés, qu'il a mis à mort, doivent probablement le hanter. Mais il y a aussi tout son passé religieux parfait, que, comme on a vu la semaine dernière, et c'est tentant de s'appuyer dessus pour construire son avenir. C'est pareil pour nous. Ça fait 2 ans, 10 ans, 20 ans que j'ai le même problème avec la pornographie, la gourmandise, la colère, la jalousie, la médisance. J'ai déjà essayé d'arrêter, de changer. J'ai réussi pendant quelques jours, quelques mois, mais rien n'y fait. Je suis tombé, retombé et encore retombé. Alors c'est pas maintenant que ça va changer. Le passé nous freine dans notre sanctification. Ou je n'ai jamais eu de problème avec ça dans ma vie. suis en sécurité. C'est pas demain que je vais devenir paresseux, moi qui suis toujours au service des autres. C'est pas demain que je risque d'être tenté par la cupidité. J'ai jamais considéré l'argent comme quelque chose de vraiment important. Pas de problème de ce côté-là. Et là aussi, le passé m'empêche d'avoir un regard lucide sur mes véritables besoins de croissance. Que fait Paul alors? Eh bien, il se dit que la seule chose qui doit gouverner sa vie, c'est son futur. La seule chose qui doit le pousser à courir, c'est la ligne d'arrivée, le but. Parce que la seule vie qui compte vraiment pour lui, c'est la vie qu'on a commencée quand on s'est mis à courir avec Christ et en Christ. Et c'est une vie qui dure pour l'éternité. Le reste, la vie d'avant, a une place infiniment petite par rapport à l'infiniment longue vie avec Christ. Alors voilà ce que ça doit produire chez les Philippiens et chez nous, ce qu'est en train de dire Paul. Et pour vous illustrer ce que ça doit produire, j'ai demandé à Luc de venir. Voilà ce que ça doit produire.
On m'a demandé de faire ça, je suis pas pour, mais il y a un niveau de satisfaction.
Voilà, il a été gentil. Ça m'a pas fait beaucoup courir en avant, mais ça doit nous mettre un coup de pied aux fesses. Parce que quand on est philippien, on a le statut de citoyen romain. Et le statut de citoyen romain, ça offre un certain nombre d'avantages et de conforts. Et c'est facile de s'en accommoder. Quand on a le statut de citoyen romain, on se sent en paix, en sécurité, parce qu'on est très privilégié. C'est un peu pépère comme situation. Je caricature sûrement le statut de citoyen romain. Mais Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un coup de pied de fesse aux fesses des Philippiens pour qu'ils se mettent à courir ensemble avec lui. Et il leur dit, verset 20, « Votre première citoyenneté, eh ben, elle est dans le ciel, pas dans l'Empire romain. » Et nous, pour la plupart d'entre nous, vivant confortablement en France, dans la paix, la sécurité, le confort, le manque de rien, ben, Paul, il nous met aussi un coup de pied aux fesses. Et moi, ça m'a parlé parce que je me rends compte que ce qui me ralentit dans ma course chrétienne, ce qui fait que je m'endors un peu souvent, ce n'est pas quand je tombe dans un péché notoire, grossier, c'est parce que j'ai une vie pépère. Et ça me rend indifférent émotionnellement, entre autres, des réalités spirituelles. Et quand je compare mes sentiments, mes émotions, avec ceux de Paul dans ce passage, ça me montre parfois le décalage entre une course remplie de zèle, fixé sur le but, et ma vie pépère. Regardez comme Paul, il est pris aux tripes dans notre lecture. Regardez cette répétition qui montre son affection de frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs tout le long. Et verset 1 du chapitre 4, « Mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, mes bien-aimés. » On voit un Paul rempli d'affection. Et regardez aussi le verset 18, quand il parle des ennemis de la croix qui ont pour destinée la perdition, il dit « Je vous en ai souvent parlé d'eux, je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. » C'est les Philippiens ont probablement reçu un manuscrit, un papyrus avec des gouttes de larmes de Paul dessus. Et cette semaine, en groupe de quartier, j'ai été témoin de frères et sœurs remplis d'émotions profondes quand on a évoqué cette réalité de la perdition des ennemis de la croix et de la joie du salut. Et ça m'a encouragé. Et j'espère que Paul nous encourage également cet après-midi. Nos émotions, en ce qui concerne les réalités spirituelles, sont un très bon indicateur de l'état de notre course. La semaine dernière, notre joie était un bon indicateur de ce en quoi nous mettions notre confiance. Et là, on voit que nos émotions sont un très bon indicateur de l'état de notre course. Est-ce que c'est une course pépère ou effrénée? Alors, avant de parler de notre fin glorieuse, de la ligne d'arrivée, j'aimerais faire juste deux précisions en ce qui concerne les raisons qui nous poussent à courir. Tout comme si je vous dis que je me suis inscrit à un marathon, ça pourrait être pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça pourrait être simplement pour relever le défi sportif, ou parce que j'ai des choses à prouver aux autres ou à me prouver à moi-même. Et dans la course du chrétien, c'est pareil. Je peux courir pour qu'on me voie. Et je reprends des questions que j'ai lues chez un commentateur cette semaine. Est-ce que je veux être fort comme Christ? Donc chercher à ressembler à Christ pour que l'on admire ma force? Ou pour être en mesure de vaincre tout ennemi désirant m'inciter à jouir de tout plaisir inférieur à celui d'admirer la personne la plus puissante de l'univers, Christ? Est-ce que je veux être sage comme Christ pour que l'on m'admire comme une personne sage? Pour que l'on admire ma sagesse et mon intelligence, ou pour être en mesure de discerner et d'admirer celui qui possède toute la sagesse? Est-ce que je veux être saint comme Christ pour que l'on admire comme personne sainte, ou pour être libéré de toute inhibition malsaine qui m'empêcherait de voir Christ et de jouir sa sainteté? Est-ce que je veux être rempli d'amour comme Christ pour que l'on m'admire comme une personne aimante, ou pour être capable de manifester l'amour pleinement satisfaisant de Christ à d'autres, même au milieu des souffrances? Donc on peut courir pour une mauvaise raison, pour qu'on nous voie. Mais on peut aussi courir pour chercher à se sauver soi-même. Je fais tous mes efforts pour tenter d'être parfait, d'être assez bien, assez bon, assez gentil, assez chrétien, pour que le jour du retour de Christ, il voit que je suis son enfant, que je suis son disciple. Mais regardez ce que dit Paul au verset 15. « Nous tous donc qui sommes mûrs, littéralement parfait, adoptons cette attitude. » En fait, la course chrétienne, c'est une course pour devenir ce que nous sommes déjà. C'est une course pour vivre selon le nouveau statut qu'on a acquis en Christ. Ce n'est pas une course pour gagner ce statut. Et ça change tout dans la manière de courir. On ne court pas avec la pression, avec la peur, l'angoisse, ne pas courir assez vite. Non, on court avec la joie d'avoir été accepté dans la course et de ressembler de plus en plus à notre coach, à notre maître, Jésus-Christ. Donc voilà de mauvaises motivations à mener une vie dans la course du chrétien. Alors après avoir parlé de la course, Paul nous parle maintenant de la ligne d'arrivée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il nous parle de deux lignes d'arrivée en fait, qui sont précédées de deux chemins différents. La première, et David nous en a déjà un peu parlé, c'est la perdition éternelle qui est destinée aux ennemis de la croix de Christ, verset 18. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin, c'est la perdition, verset 19. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Donc, cette ligne d'arrivée est pour les ennemis de la croix de Christ, pour ceux qui ne pensent qu'aux réalités de ce monde, c'est-à-dire pour les non-croyants et pour tous ceux qui ont pour Dieu leur ventre, leur propre fierté, leur loi, leur circoncision, etc. Cette perdition, le reste de la Bible nous dit que c'est l'enfer, un lieu où ceux qui n'auront eu comme préoccupation que les réalités du monde ou eux-mêmes subiront un châtiment, une peine consciente et éternelle. Et quand on pense à cette réalité, c'est normal que ça nous angoisse, que ça nous plonge dans une tristesse absolument terrible. Bien que nous devrions nous approprier par la foi la vérité que la perdition des ennemis est une décision prise par un Dieu juste et bon, ça reste une grande source de chagrin pour nous. Parce que Dieu a mis dans notre cœur une part de son amour pour les gens créés à son image et même pour les gens qui se révoltent contre lui. Mais cette réalité de la perdition devrait nous pousser à suivre le deuxième chemin et à proposer ce deuxième chemin au plus grand nombre pour atteindre la deuxième ligne d'arrivée avec le plus de personnes possible. Cette deuxième ligne d'arrivée, c'est la résurrection, verset 21. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Et la résurrection, qui aura lieu lors du retour de Christ, Paul nous précise pour qui elle est. Elle est pour ceux qui appellent Jésus-Christ leur Seigneur, verset 20, leur Maître, leur Roi. C'est-à-dire qu'elle est pour ceux qui font allégeance à Jésus en premier, qui lui obéissent et qui vivent comme des sujets de Jésus. Et elle est pour les citoyens du ciel, ceux qui ont le droit de citer dans le ciel, ce qui veut dire à peu près la même chose, puisque si on a Jésus pour roi, c'est que nous appartenons à son royaume et donc que nous sommes citoyens de son pays, le ciel. Mais si Paul utilise ce langage de la citoyenneté, c'est pour mettre en évidence qu'on ne doit pas trop s'attacher à notre citoyenneté terrestre. On n'est que des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Et ça, ça a pas mal d'implications. Entre autres, ça donne un sens à nos souffrances. Ça donne un sens à notre souffrance. Pensez à des étrangers qui vivent en France. Ou pensez, vous rappelez-vous, si vous avez habité dans un pays étranger. On ne se sent pas chez nous. On nous le fait toujours remarquer. On n'a pas les mêmes priorités, parce qu'on n'a pas la même culture. On n'a pas le même code vestimentaire. On n'achète rien de volumineux ou de grande valeur, parce qu'on sait qu'on va rentrer chez nous. Et en fait, on expérimente une sorte de souffrance de ne pas être chez nous. On a le mal du pays. Mais on sait pourquoi. On sait pourquoi. Parce qu'on n'est pas chez nous. On est étranger, en voyage. Et je lis ce que nous dit un commentateur à ce sujet. Les chrétiens attendent-ils avec impatience le retour de Christ ? Plus les chrétiens sont absorbés par la recherche de bonnes choses de cette vie, et plus ils négligent une communion fraternelle authentique et leur relation personnelle avec le Christ, moins ils aspirent au retour de Christ. D'autre part, la plupart des chrétiens qui connaissent la souffrance ou la persécution, ou qui ont atteint un certain âge et sont physiquement diminués, et ceux dont la marche quotidienne avec le Christ est profonde, aspireront plus ardemment à son retour. Dans une certaine mesure, par conséquent, l'ardeur avec laquelle nous aspirons au retour de Christ est un indicateur de notre condition spirituelle. L'ardeur avec laquelle nous aspirons au retour de Christ est un indicateur de notre condition spirituelle. Et ce que ce commentateur dit est intéressant. Après avoir vu que nos émotions sont un indicateur de l'état de notre course, on voit que l'ardeur avec laquelle on aspire au retour de Christ, c'est un indicateur de notre condition spirituelle. Et ça nous montre si on se sent davantage citoyen du ciel ou de cette terre. Et écoutons encore ce que nous dit Jean Calvin au sujet de nos souffrances présentes. Il n'y a rien de plus difficile pour notre lenteur d'esprit que de surmonter des obstacles en nombre infini et de poursuivre notre course joyeusement jusqu'à ce que nous ayons obtenu le prix de la vocation céleste. De plus, nous sommes opprimés par une multitude de malheurs. Nous sommes l'objet de railleries pénibles de la part de nombreux moqueurs qui, sur le mode de la plaisanterie, nous traitent de benêts et de nigauds parce que de notre plein gré, nous nous désintéressons des plaisirs et des loisirs du siècle présent, en espérant saisir un bonheur invisible, comme si nous courions après une ombre toujours hors de portée. Bref, en haut et en bas, à gauche, à droite, nous sommes assaillis de tentations si importantes et fortes que nous ne pourrions pas les supporter et leur résister, si nous n'étions pas comme débarrassés des réalités terrestres pour nous concentrer sur la vie céleste, qui semble encore bien loin de nous. C'est pourquoi personne n'a vraiment et fortement progressé dans l'Évangile si elle n'a pas acquis la capacité de méditer sans se lasser sur la résurrection bienheureuse. Personne n'a vraiment et fortement progressé dans l'Évangile si elle n'a pas acquis la capacité de méditer sur la résurrection bienheureuse. Mais alors cette résurrection dont nous parlent Jean Calvin et Paul, que nous on doit attendre avec impatience, c'est quoi ? Eh bien, Paul nous le dit, verset 21, que c'est la transformation de notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Donc, si on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, eh bien, il nous faut regarder à Jésus. Jésus a été roué de coups de fouet. Il a été cloué sur une croix, percé par ses ennemis. Et il est mort. Son cœur s'est arrêté. Son sang a cessé de circuler. Son cerveau s'est éteint. non pas parce qu'il le méritait, mais pour porter le poids de nos péchés. Il est resté 3 jours dans un tombeau, et la nature a commencé à faire son travail sur son corps. Mais 3 jours après sa mort, il est revenu à la vie. Son cœur s'est remis à battre, son sang a circulé, son cerveau a fonctionné, ses plaies se sont réparées, et il était à nouveau sur pied. Alors c'est dur de croire à la résurrection de nos corps, surtout quand on sait que des corps mis en terre ou incinérés depuis des années, des siècles, vont reprendre vie. Mais pensons à Christ. Il est passé par là, et si nous doutons de cette réalité, il nous faut nous approprier avec foi ce que Christ a vécu et ce qu'il rend possible maintenant pour nous. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'Évangile, nous assure que Dieu nous accepte parce que Christ a porté notre condamnation, mais ça nous assure également de notre destinée, de la ligne d'arrivée, qui va ressembler à celle de Christ par la résurrection physique. Et les amis, je me suis rendu compte que cette résurrection physique que nous attendons, c'est l'une des raisons pour lesquelles on donne un soin particulier au corps dans les enterrements. En fait, ça fortifie notre foi d'enterrer quelqu'un avec soin parce que son corps n'est pas plus rien, n'est pas néant quand la personne meurt. Son corps n'est pas arrivé à son terme comme si on ne devait se préoccuper plus que de son âme, mais son corps sera un jour entièrement régénéré, ressuscité. La résurrection, c'est une chose incroyable. Le caractère incorruptible de notre nouveau corps signifie qu'il ne vieillira plus jamais, ne sera plus sujet à aucune faiblesse, à aucune maladie. Il sera entièrement sain et fort à tout jamais, il ne portera aucune trace de blessure. Tout sera rendu parfait, il n'y aura plus besoin de médecins, de médicaments, d'hôpital. Notre corps de résurrection manifestera la sagesse parfaite de Dieu qui a fait des êtres humains le chef-d'œuvre de sa création et les dignes porteurs de son image. Ce corps ne sera plus méprisable ou laid, mais beau et glorieux. N'est-ce pas merveilleux? Voilà la fin glorieuse qui nous attend et qui nous aide à supporter ce que nos corps de misère vivent dans ce monde. La marque du péché, la maladie physique ou psychique, la dépression, la souffrance physique inexpliquée, le fait qu'on naisse avec des infirmités, avec des handicaps, etc. Parfois, on se sent prisonnier de notre corps de misère. J'ai eu des souffrances physiques assez fortes pendant 3 ans suite à un accident, et j'avais envie de sortir de mon corps de misère. Mais quelle récompense, quel réconfort absolument formidable c'est de savoir qu'il existe une fin glorieuse à cette course difficile et une issue pour notre corps, qui n'est pas la fuite, l'abandon du corps, mais un parfait renouvellement. Et je vous invite à demander à nos aînés ou aux chrétiens qui souffrent de la maladie dans notre assemblée, à leur demander comment cette espérance les aide à supporter les souffrances. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore beaucoup expérimenté ça, et je vous avoue que je ne sais pas vraiment encore tout ce qu'on ressent dans ce genre de situation. Mais je suis sûr que nos frères et sœurs peuvent témoigner d'expériences spirituelles très fortes vécues au sein de la souffrance à cause de la souffrance dans leur foi. Voilà la fin glorieuse qui nous attend, la ligne d'arrivée sur laquelle Paul nous invite à fixer nos regards. Et j'aimerais simplement finir avec 3 anecdotes. 3 anecdotes qui parlent de marathon. Foja Singh, un Britannique, commença à courir des marathons à 89 ans. Et comme papy avait la forme, il en court 9 autres par la suite pour finir son dernier marathon à Hong Kong à 101 ans. Incroyable. Donc, ça n'est jamais trop tard pour se mettre à courir. Si jamais quelqu'un est dans cette salle et qu'elle croit que c'est trop tard. Eh ben, c'est faux. 40, 50, 80 ans, c'est rien en comparaison avec l'éternité qui nous attend. Deuxième anecdote. Aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912, Shizo Kanaguri, c'est un Japonais qui participe à la course, au marathon. Au bout de 30 km, il aperçoit quelqu'un en train de boire un jus de fruit devant sa maison. Oh ! Fatigué, il s'arrête pour se déshydrater et finit allongé sur le canapé pour récupérer un peu de ses 30 km. Le coureur s'y endort et se réveille le lendemain. Mais il est retourné sur les lieux de la course en 1967 et l'a terminé à l'âge de 75 ans. Leçon, même si on s'arrête en chemin, on peut s'y remettre. Vous avez peut-être l'impression d'avoir commencé la course un jour dans un élan de spiritualité, de foi, mais vous êtes arrêté. Eh bien, on peut s'y remettre. Dernière anecdote. Le 13 juin 2021, Ronnie Esther Molo, Aurélien Lang et Johan Nicolet, peut-être j'en ai oublié, désolé, participent à un semi-marathon. Ils ont couru de toutes leurs forces et sont tous arrivés à passer la ligne d'arrivée. Une chose qui les a motivés à le faire, eh ben, le fait de courir cette course ensemble. Parce que courir la même course ensemble, eh ben, ça donne des forces. On s'encourage. Et c'est ce que Paul, ici, nous encourage à faire. Ce qu'il ne veut absolument pas, c'est qu'on rentre dans la course tout seul. Je relis les versets 16 et 17. « Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, tous, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Vous voyez, c'est une course collective. C'est ensemble qu'on doit avancer. Et ça, c'est une raison d'être de nos églises locales, de nos rassemblements, de nos groupes de quartier, du temps qu'on passe ensemble les uns avec les autres. Nous sommes appelés à courir ensemble et pas seuls. Et c'était la dernière anecdote. Alors tenons ferme, ensemble les amis, dans le marathon de la vie chrétienne, cette course effrénée qui a une fin glorieuse, le retour de notre Seigneur et la résurrection de nos corps de misère.